Extrait de Mémoire d'un caniche, Julie Gouraud. Introduction. Eh bien non, je ne suis pas savant. Ne comptez pas sur moi pour faire une partie de domino, et encore moins pour additionner la dépense d'un collégien au retour d'une promenade générale. Cependant, je ne suis pas plus bête qu'un autre, et je ne vois pas pourquoi je n'écrirais pas ma petite histoire, à l'exemple des poupées, des petits garçons, voire même des ânes. Tous ces auteurs ont donné le nom pompeux de mémoire à leurs récits. Pourquoi ne les imiterais-je pas ? J'ai bonne réputation, personne ne se méfie de moi, je suis fidèle, obéissant, dénué d'ambition. L'intérêt n'influence point ma conduite. Plaire à mon maître, lui prouver mon dévouement, le suivre dans l'adversité, le reconnaître toujours et partout, tel est mon caractère. Peut-être le lecteur pense-t-il que j'aurais dû charger un ami de cette petite préface. Je laisse à d'autres ce manège de fausse modestie. Je pense bien de moi et j'ai la simplicité de le dire. C'est un trait d'originalité qui en vaut bien d'autres. Je suis vieux, 12 ans, et quelquefois de mauvaise humeur. Mon maître est en voyage. Il a craint qu'un changement de climat ne nuise à ma santé. Il m'a donc confié aux soins d'un serviteur encore plus vieux que moi. Nous dînons ensemble, nous dormons ensemble, nous parlons de notre maître, nous soupirons ensemble. L'autre jour, nous devions faire quelques visites, lorsqu'une pluie torrentielle arrêta le bon Jacques dans ses projets. « Oh, dame !» dit-il, « par un temps comme ça, on ne te mettrait pas dehors. » Je connais le proverbe. Quelle pusillanimité ne pas sortir parce qu'il pleut. J'eus besoin de me rappeler toutes les bonnes pâtées et les eaux que j'avais reçues de Jacques et de Sylvie, sa femme, pour ne pas aboyer de pitié. Cependant, sans la prudence de mon fidèle gardien, je n'aurais probablement pas songé à me faire auteur. Tout en dormant et en grognant, je voyais passer devant moi les beaux jours de mon enfance, les rêves de ma jeunesse. J'allais peut-être verser des pleurs lorsque, tout à coup, secouant les oreilles, je me dis « Écrivons l'histoire intéressante de notre vie. Vous, enfant, lisez-la. » Chapitre 1. Mon arrivée au château de Baudry. Où est-il? Voici la voiture, on ouvre la grille. Paul, Henriette, Louis, venez, venez donc, le voici. Les enfants accouraient tout en appelant. Les bonnes cherchaient en vain à rétablir l'ordre interrompu par l'arrivée d'une berline à 4 chevaux qui s'avançait au milieu de la grande cour du château. Nous étions encore assez loin du perron lorsque, mettant la tête à la portière, j'aperçus 2 petits garçons et la petite fille dont les voix fraîches avaient attiré mon attention. Les premières impressions ne trompent jamais un chien. Ces têtes blondes, groupées autour d'une jeune mère, me plurent tout d'abord et je voulus le témoigner par un petit aboiement plein de douceur qui enchanta toute la société. La voiture s'arrête. Monsieur Delville me prend dans ses bras et est bientôt entouré de ses enfants. « Papa, papa, ah, qu'il est joli, qu'il est drôle, mettez-le par terre, quel âge a-t-il ? » ?»« Enfant, ne le tourmentez pas, c'est la meilleure petite bête du monde. »« Mon petit papa, prenez-le pour que je le voie mieux, ah, que je l'aime !» Mademoiselle Henriette n'aime plus son papa, elle ne l'a pas embrassé, c'est joli. » Mademoiselle Henriette avait 4 ans et demi, et ma présence lui tournait la tête. Je le dis sans fatuité. D'ailleurs, une petite fille et un petit chien sont destinés à être amis, et il ne fallait certes pas moins que la force de la sympathie pour faire oublier à Henriette ses devoirs, car c'était bien la meilleure et la plus gentille enfant que j'ai rencontrée dans toute ma vie. En même temps, que ce doux reproche échappait au père, il tendait les bras à la petite qui posait sa tête blonde et frisée sur l'épaule de son papa après chaque baiser reçu ou rendu. Le calme étant à peu près rétabli, on alla d'autant plus vite au salon qu'une grand-mère nous y attendait avec impatience. Monsieur Delville me posa sur le parquet et un cercle se forma autour de moi. Chacun dit son mot. Je fis assez bonne contenance. Je regardai à droite et à gauche. Ce fut en ce moment que je m'aperçus pour la première fois dans une glace. Ma mère m'avait dit que j'étais beau, mais je vous avoue que je me trouvais au-dessus de tous ces éloges. Une robe blanche et frisée, une queue en panache naissant, des pattes fines, des oreilles flexibles accompagnant un museau plein de physionomie, je fus enchantée de me connaître et je compris comment j'excitais l'admiration générale. Tous les yeux étaient tournés vers le nouvel ami de la maison. Je ne pouvais faire un mouvement sans qu'il fût remarqué. Aussitôt une grave question s'éleva. « Comment l'appellerons-nous ? Snap, Médor, Black ?» C'était une confusion à me rompre les oreilles. « Mon cher papa, je serais bien content si vous me permettiez de l'appeler César. »«
Quelle ambition ! Il n'est pas de taille à porter ce nom. »«
Eh bien, papa, appelons-le Midas. »«
Et toi, Henriette, comment l'appelleras-tu ?»«
Moi, papa, je l'appellerai Toutou, mon sien. »
Cette voix enfantine fit battre mon cœur. « Toutou, mon sien. Oh nom plein de douceur, que de fois vous avez charmé mes oreilles. »
Mais les garçons éclatèrent de rire. Le père embrassa sa petite fille et après plusieurs propositions repoussées, je reçus le nom de César, parce que Paul avait appris le matin même l'histoire d'un ancien capitaine romain qui l'avait illustré. Monsieur Nelville céda à la fantaisie du petit garçon. Et le château retentit du nom de César, auquel je m'habituais d'autant mieux qu'Henriette le prononçait facilement.
« Bonne maman, je voudrais bien le toucher. »«
Caresse-le, ma chérie. »«
Bonne maman, j'ai peur. »«
Ne crains rien, c'est un chien de bonne nature. Il te regarde. Allons, caresse-le. » Henriette se décida à passer sa petite main potelée sur mon dos, sur ma tête, puis... S'enhardissant, elle me toucha la moustache. Je m'empressai de lécher la main de ma petite amie. Ce fut alors une explosion de joie.
« Bonne maman, il m'a léché. Paul Louis, il me lèche. Regardez sa petite langue rose. »
L'expérience se renouvela 3 fois de suite. Les garçons présentèrent leurs mains. Elles étaient, à vrai dire, moins séduisantes. Mains d'écolier tachées d'encre et déjà assez vigoureuses pour s'armer contre moi. N'importe, ces enfants avaient une bonne physionomie, des yeux francs et ouverts, et d'ailleurs je craignais d'introduire la jalousie dans la famille. Mon dîner fut un spectacle qui ravit les enfants. Je ne sais rien de plus laid qu'un chien affamé qui se jette sur une pâtée. Me souvenant des conseils de ma tendre mère, je mangeai peu, et sans laisser tomber la plus petite miette sur mon assiette. On vit tout de suite que j'étais propre. Jacques dit cependant qu'on ne pouvait pas savoir qu'il fallait attendre au lendemain pour se promener. Le lendemain me couvrit de gloire. Une niche en damas bleu m'avait été préparée dans le grand vestibule. Certes, je fus flattée de cette aimable attention. Toutefois, je fis quelques cérémonies pour y entrer. Ma mère m'ayant dit que tout ce qu'il y a de mieux pour un chien, c'est de dormir en rond sur un bon fauteuil. J'entrai donc dans la niche par pure politesse, me disant qu'avec le temps, je pourrais m'en affranchir sans me montrer ingrat. J'avais 6 mois. Novembre finissait lorsque j'arrivais à Baudry. La saison était pluvieuse. Nous ne sortions guère de la cour du château. Mais quelle cour ! Elle s'étendait jusqu'au chemin. De magnifiques grilles en gardaient l'entrée et de chaque côté des espèces de fossés plantés de figuiers et de pommiers sauvages nous mettaient à l'abri de toute attaque. Un petit fourret, des haies de buis respectées en dépit de la mode parce qu'une aïeule les avait plantées, donnait à cette cour l'aspect d'un parc. Elle était sablée et j'avais le plaisir d'y considérer l'empreinte de mes pattes.
Lorsque nous ne pouvions pas gambader dehors, nous prenions nos ébats dans une des salles du château. Tenez, je regrette pour la première fois de ma vie de ne pas être savant. Je compterai les fenêtres de notre château et j'en trouverai au moins 300. Oui, 300. J'ai du coup d'œil. Vous ne le savez peut-être pas, un chien connaît bien vite les gens avec lesquels il vit. Il voit s'ils ont de l'éducation, de la politesse, et il suit l'exemple qu'on lui donne. À Baudry, tout le monde avait de bonnes manières. Les enfants se tenaient bien à table, ne parlaient que lorsqu'on les interrogeait, ils ne suçaient pas leurs doigts, ne buvaient pas la bouche pleine et ne donnaient pas de coups de pied à leurs voisins. Où veux-tu en venir, ami César, avec de pareilles réflexions ? Voici. J'ai voulu vous faire pressentir que ma présence n'était point admise dans la salle à manger et que, si par hasard je m'y faufilais, je ne demandais rien. Lorsque l'odeur d'un civet de lièvre m'incommodait trop, je profitais de la première ouverture de la porte pour m'en aller, me disant qu'après tout, je serais plus à mon aise pour croquer les os que la bonne Goton tiendrait en réserve pour moi. Au salon, j'avais une tenue tout aussi distinguée. Je n'ai jamais vu Paul et Louis se coucher sur le canapé, faire la culbute au milieu du salon. Alors, je me tenais tranquille au coin du feu, allant de temps à autre prendre l'air. Une des choses qui me concilièrent l'estime de tous les gens de la maison fut l'excellente habitude d'essuyer mes pattes chaque fois que je rentrais. Paul, qui s'était fait un jeu de me former à cela, y gagna lui-même, car il était bien forcé de me donner l'exemple. Cette marque de savoir-vivre me fit une grande réputation. Je fus bientôt connu dans tout le pays pour ma propreté. Les enfants étrangers jouaient à me faire sortir et rentrer pour avoir le plaisir de me voir renouveler un pareil prodige. Monsieur Nelville n'était pas chasseur, mais quelquefois, il recevait des amis qui avaient cette faiblesse. Un jour, je vis arriver une meute précédée d'un piqueur, donnant du corps à tue-tête. J'aboyais de toutes mes forces pour protester, puis je m'enfuis près d'Henriette, bien résolue à n'avoir aucune communication avec tous ces chiens qui poussent l'obéissance et la servitude jusqu'à devenir cruels. Ils se croient des héros lorsque Lalali s'est fait entendre et se jettent sur un pauvre lièvre qu'ils n'auraient peut-être jamais dépisté. Beau mérite, vraiment, de tenir en arrêt une gentille perdrix, de faire trembler un lapin. En un mot, d'être la terreur des bois et des champs. Malgré mon humeur dédaigneuse, je ne pus m'empêcher de regarder au travers des vitres. Ils étaient 20 ou 30. C'est terrible de ne savoir compter même sur ses griffes. Tenus misérablement en laisse, ils sautaient, aboyaient comme des fous, m'appelant, m'interpellant. Je restais ferme et droit sur mes pattes, me bornant à aboyer de ma plus grosse voix, afin qu'ils ne me prissent pas pour un chien de carton. Enfin, cette vile meute fut emmenée dans les communs du château. Et le lendemain, je fus éveillé par leurs aboiements, qui ne respiraient que meurtre et carnage. Quelle fut ma surprise de voir entrer au salon un Danois grand comme un petit âne. Son maître le tenait en laisse. Ce bel étranger portait tout bonnement le nom de sa race, Danois. Il me regarda du haut en bas avec un air si impertinent que je m'avançais tout hérissé, les yeux flamboyants et sans souci de ma petite taille pour lui proposer un duel. Henriette, vivement alarmée, me rappela à moi-même. « Eh bien, mon chien, y penses-tu ? Te battre avec le Danois, il n'est sans doute pas aussi brave que toi, mais il est plus méchant et tu serais mordu. » Je m'éloignais, non convaincu de mon infériorité, mais parce que déjà Henriette avait acquis sur moi un empire sans bornes. Je l'aimais. Le maître du Danois ne tarda pas à me donner l'explication des grands airs de son chien. « C'est, dit-il avec une sorte d'orgueil, la plus belle et la plus grande espèce de chien que nous ayons en Europe. » Il fit admirer la beauté de sa robe, la hauteur de sa taille, l'expression de sa physionomie. « Je l'ai payé 500 francs, dit-il. » Je ne m'étonnais plus de l'air dédaigneux et important de l'étranger. Il n'est pas rare que les hommes contribuent à nous donner des défauts
dont nous n'avons pas l'instinct. Peu de jours après, la meute décampa, à ma grande satisfaction, et grâce aux enfants, je n'eus aucune espèce de relation avec le fier Danois, qui lui aussi ne tarda pas à quitter Baudry. L'hiver n'est pas amusant pour les chiens comme il faut. Heureusement que Baudry est un immense château, un collège entier pourrait jouer au bar dans les salons. Quelle partie n'avons-nous pas faite dans le billard et dans les vestibules ? Aujourd'hui, ma démarche est moins svelte. La meilleure entente régnait parmi nous lorsqu'un jour, je vis une belle chatte blanche entrer au salon. Aussitôt, je me précipitai vers elle, de l'air le plus menaçant. Elle se gonfla, se hérissa et nous allions nous livrer un rude combat lorsque les pleurs d'Henriette, ses armes puissantes, me firent reculer de quelques pas. Madame Nelville survint, prit la chatte et la mit à la porte. J'aboyais encore pour ne laisser aucun doute sur mon mécontentement. La mère consola sa petite fille qui ne voulait pas entendre raison, ayant déjà vu ce phénomène déplorable de la bonne intelligence d'un chien et d'un chat. Ma tendresse pour Henriette ne put vaincre mon antipathie et ma résolution. Je méprise le chien qui vit en paix auprès d'une chatte. Il court le risque de s'amollir en une telle compagnie. Lui, franc, généreux, sincère, peut-il s'entendre avec cette espèce dont la dissimulation, l'égoïsme et la perfidie sont connus du monde entier, sans perdre de la noblesse de son caractère ? Henriette essaya donc de me persuader, et la chère petite eut le bon goût et le bon sens de rompre avec la chatte. Chapitre 2. Le printemps, je me promène, mouflard, un événement terrible. Henriette m'avait bien dit, « Tu verras mon sien, comme c'est beau notre campagne. Va, nous nous promènerons joliment. » J'étais loin de me douter que j'habitais tout bonnement un des plus magnifiques châteaux de la Touraine. Le dernier jour d'avril, par un temps d'une douceur qui n'est pas rare dans le « jardin de la France », M. Nelville annonça que nous ferions une grande partie, qu'on irait jusqu'aux cascades, que les garçons pêcheraient dans l'étang et que Mademoiselle Henriette, montée sur son âne, ne s'en retournerait pas avec la bonne après avoir fait la conduite aux promeneurs. Le soleil, les préparatifs, me firent bien vite deviner de quoi il s'agissait. Je sautais, j'aboyais, je grognais tant j'étais impatient de m'élancer dans le bois dont j'avais aperçu la première teinte de verdure le matin à ma fenêtre. Nous partons. Je m'élance, descends au pas accéléré une espèce de rempart, foulant sans pitié Violette et Coucou, et j'arrive auprès d'un long étang bordé de peupliers, tous frères. Ayant traversé un petit pont, je me trouvais dans une prairie comme vous n'en avez probablement jamais vu, mes enfants. Puis, au-delà de ce tapis vert, des bois de futaies. Je me crus un instant le marquis de Carabas, ou tout au moins son chien, si tant est que le marquis avait un chien. Mon absence avait jeté l'alarme dans la société. J'entendais bien mon nom prononcé alternativement par chacun des membres de la famille, mais je faisais la sourde oreille, ce qui serait fort laid de la part d'un petit garçon, car ce n'est pas fameux pour un chien. J'aperçus bientôt Paul, qui cria aux autres « Le voici !» Et pour toute réprimande, il me fit sauter et courir après lui. Les promeneurs étant réunis, M. Delvin me dit très sérieusement qu'il n'entendait plus que je courusse ainsi en éclaireur. La futaie est immense et malgré tout ton esprit, tu pourrais bien te perdre, mon camarade. Je compris la valeur du conseil et je marchai à côté d'Henriette, montée sur son âne. La bonne petite, me croyant dans son innocence, un être faible comme elle, voulut absolument me faire asseoir sur la croupe de l'éveillé. Je résistais, mais vainement. Monsieur Delville me prit par la peau du cou et me plaça sur l'âne pour complaire à sa petite fille. Je m'assis franchement. Cette complaisance me valut mille éloges. Il paraît que j'avais vraiment l'air d'un personnage. J'aurais voulu entrer ainsi dans la capitale du Wurtemberg. Pourquoi le Wurtemberg, César ?
parce que Paul m'avait répété sa leçon de géographie la veille.
Eh bien, voyez un peu, la fortune peut même gâter le meilleur des chiens. Je me trouvais déconcertée lorsqu'on me remit sur mes pattes.
On s'arrêta pour raconter des histoires, auxquelles je ne comprenais rien. Alors, je tournaillais à droite et à gauche, ayant la douceur de voir de jeunes perdrix volter près de moi, sans crainte d'être fascinée par mon regard. Ce jour-là, j'eus l'honneur de dîner en famille. Un dîner sur l'herbe, il est vrai, mais qu'importe, je pris place entre Paul et Henriette. Tout le monde admira avec quelle grâce je fis disparaître ma pitance de croûte de pâté. À partir de ce moment-là, je ne rêvais plus que bois et prairies. La grand-mère ne pouvait plus me retenir près de son métier à broder. Elle m'appelait coureur et me prédisait toutes sortes d'aventures. Elle me racontait des histoires qu'elle faisait même semblant de lire dans un livre, des histoires de chiens et d'ânes, où le rôle n'était certes pas brillant pour mes aïeux. De chiens et de loups, mille contes enfin. Tout cela ne m'empêchait pas de courir. Je croyais qu'il en serait toujours ainsi. Un matin, M. Delville m'appela dans son cabinet. Il ferma la porte, ouvrit un tiroir et en tira un collier rouge comme celui d'Henriette. Sur une plaque d'argent était gravé mon nom et celui de mon maître. M. Delville me fit valoir cet honneur et, voyant mon peu de goût pour les bijoux, il parla contre la vanité des colifichets, loua ma simplicité. Je tremblais de tout mon corps, je pleurais malgré moi.
Vraiment, César, je ne te comprends pas, ce collier est charmant. Il tira à merveille, c'est un talisman, mon ami. Rien de fâcheux ne pourra t'arriver une fois que je te l'aurai attaché au cou.
Allons, ici, César. Je me couchai sous la table, m'aplatissant et gémissant. Insensé que j'étais. Monsieur Nelville prit un martinet, me frappa d'abord légèrement, mais mon opiniâtreté augmentant, il fit un crescendo sur mes épaules. Une scène horrible se passa. Les enfants accoururent à mes cris, et j'eus la confusion de me voir pris comme un malfaiteur, condamné à la chaîne.
Ma conduite fut racontée au déjeuner. On m'appela orgueilleux. Henriette, après avoir été alarmée par mes cris, était ravie de me voir avec ma nouvelle parure. Elle me rappela que le grand Danois avait un collier presque aussi haut que la timbale d'argent dont elle se servait. Malgré tous ces beaux discours, j'étais triste. D'abord, on ne me croyait plus un chien sans reproche. J'avais montré un mauvais caractère. Et au lieu de réparer ma faute, je grognais.
Paul, m'ayant touché le bout de la queue en passant, je jetai des cris perçants. Si bien que, malgré les instances de mes petits amis, M. Nelville me mit à la porte avec un geste peu respectueux. Vraiment, si un chien pouvait raisonner comme un petit garçon ou une petite fille, il s'épargnerait bien des chagrins.
Je ne tardai pas à reconnaître l'utilité du collier qu'on m'avait mis au cou, en dépit de ma résistance.
Voici à quelle occasion, mais je dois d'abord avouer que j'étais tellement habituée à mon collier qu'il m'était désagréable qu'on me l'ôtât.
C'était bien la peine de faire tant de sottises pour me le laisser mettre, n'est-ce pas ?
Je suis extrêmement sensible à la belle nature. Ayant fait connaissance avec les bois et les prairies, j'aurais toujours voulu courir.
Les cascades ne m'effrayaient pas.
Mon humeur vagabonde ne put échapper à M. Nelville, et encore moins aux enfants dont j'étais la joie.
Que de fables, de leçons d'histoire grecque et romaine ne m'ont-ils pas récitées ? Ce jeu était plus amusant pour eux que pour moi.
Henriette, qui en était à l'alphabet en chocolat, se passait fort bien de moi pendant son quart d'heure d'étude. Il n'en était pas de même à la récréation. La chère petite avait souvent la fantaisie de mettre sa poupée à cheval sur mon dos. Je la laissais faire, mais avec l'âge, les chiens deviennent raisonnables et je m'ennuyais d'une vie monotone. Ma tête se remplissait de projets ambitieux. Je ne savais lesquels, n'importe. Je me sentais enflammée de zèle et de courage pour je ne sais quel exploit. J'étais presque gardée à vue, mais bah. Un matin, je sautai par la fenêtre et me voilà courant je ne sais où. Quand je fus bien loin, j'aperçus un troupeau de moutons et un magnifique chien de berger. D'aussi loin qu'il me vit, il se mit à aboyer. Je crus d'abord à une déclaration de guerre. C'était une politesse. Étant rassuré, car quoi que j'en dise, je goûte peu les batailles, je m'approchai de Mouflard et la conversation s'engagea. À l'exemple de tous les serviteurs, grands ou petits, nos maîtres firent les frais de notre conversation.
« Tu es un chien de famille, je vois cela à ton collier. »«
Oui, et de bonne famille. »
C'est égal, je te plains. Tu dois être bien assujetti. Je me demande même comment tu as pu arriver jusqu'à moi. Cette petite escapade te vaudra de bons coups de martinet, va. Car tu seras tambouriné par tous les villages et retrouvé. Veux-tu que j'ôte ton collier ?
Je veux bien, mon ami. Voilà donc Mouflard à l'œuvre. Oh, quelle frayeur ! Il me serrait le cou. Certaines histoires de loups me passaient par la tête. J'avais tort, grand tort, de me méfier du brave Mouflard. Il me dit simplement
« J'ai peur de t'étrangler, c'est une triste vie que la tienne. Comment te nommes-tu »
« César. »
« Un drôle de nom ! Un nom de mirliflore, sans doute. »
La conversation fut interrompue par le caprice d'un mouton. Mouflard courut à toutes pattes et le ramena au milieu du troupeau. Ces bêtes de moutons doivent passablement t'ennuyer.
M'ennuyer ? Pauvre Barbet ! Tu ne connais pas les chiens de berger. Apprends que je donnerai ma vie pour chacune de mes brebis. Je ne les perds jamais de vue. Tout en me livrant au plaisir de la conversation avec toi, je les suis, je les protège de mon regard. Sans doute l'honneur m'y engage, mais l'amour seul me retient près d'elles. L'an passé, une de mes brebis m'y bat près d'une haie. La pauvre bête resta près de son agneau et je la cherchais pendant longtemps. L'ayant enfin retrouvée, je ne pus me décider à l'abandonner et nous passâmes la nuit tous les trois à la belle étoile. J'étais désolé et malheureux à la pensée que mon maître s'inquiéterait fort de mon absence et de celle d'une brebis. C'était une faute, car mon cher, un chien de mon espèce coûte fort cher. Ma réputation pouvait aussi en souffrir. Que faire ? Attendre ? Le lendemain, le berger reparut sans chien, avec son troupeau. Dès que je l'entendis approcher, j'aboyais de toutes mes forces. Et bientôt, je vis mon maître. J'étais couché près de la brebis et de l'agneau. Mon regard lui dit tout. « Pauvre Mouflard, chien fidèle et incomparable, » me répondit-il, « tu es ma gloire et celle des chiens de berger. » Il portait l'agneau, la mère et moi suivions. De retour au milieu du troupeau, je repris mon poste, rassurant mes brebis et leur donnant à entendre que j'en ferais autant pour chacune d'elles. « Voilà, » dit Mouflard, « une petite histoire qui doit t'attrister. Jamais vivrais-tu 15 ans, tu n'auras la pareille à compter. Ce n'est pas ta faute. »
Je reconnais ta supériorité, Mouflard. Je loue ta vigilance et ta tendresse pour tes brebis. Mais j'ai de l'avenir devant moi et je ne désespère nullement de mériter un jour ou l'autre la reconnaissance de mes maîtres. Au revoir, Mouflard. Je crains qu'on ne s'inquiète de mon absence. Me voilà parti au galop. Et bien m'en prie. Ma disparition avait jeté l'alarme au sein de la paisible famille.
Eh bien, monsieur, d'où venez-vous ? Voyez comme il a chaud. C'est très laid de courir ainsi. César, si vous prenez d'aussi mauvaises habitudes, on vous attachera.
Cette menace me fit réfléchir et je repris ma place à côté du métier de la grand-mère, dormant tout de mon long sur le parquet et en trouvant un œil pour gober au passage quelques mouches importunes. Un matin, il faisait un temps magnifique. Henriette avait obtenu la permission de s'amuser avec moi dans la cour avant le déjeuner. Jouer à cache-cache, sauter, nous appeler, rire, aboyer, tout cela constituait un plaisir toujours nouveau. Tout à coup, la petite fille disparaissait. Je la cherche là où je l'avais trouvée plusieurs fois. Inquiet, j'appelle. On prend encore mon avertissement pour un jeu. Mon anxiété augmente. Je vais jusqu'à la grille près de l'étang. Que vois-je ?
Henriette montait sur le petit bateau de ses frères. Elle se balançait. Son pied glisse, elle tombe, et la frêle embarcation chavire, entraînant ma petite amie dans l'eau. D'un bond, je me jette à la nage, et au moment où l'enfant fait le plongeon, je la saisis par sa robe. Je vis mon ombre dans l'eau, mais me souvenant d'une fable que Paul m'avait récitée, je ne lâchais pas ma proie. Ce n'était pas la première fois que j'entrais dans l'étang. J'ai des habitudes de propreté qui sont aussi agréables à mes maîtres qu'à moi-même. Mais vous le comprenez, il est bien différent de se jeter à l'eau pour prendre un bain ou pour sauver la vie à un enfant. J'étais émue, tremblant. Après avoir repris haleine, je saisis de nouveau ma petite amie et je parvins, non sans peine, à la traîner sur l'herbe. Ses yeux étaient fermés. J'avais beau tourner autour d'elle, la lécher, me plaindre, je n'obtenais aucun signe de vie. Alors, courant au château, j'allai d'abord à la cuisine, où je ne pus me faire comprendre. Goton répondit à mes plaintes en m'offrant une pâtée. D'un coup de patte, je renversai l'écuelle et je me précipitai au salon où, par bonheur, je trouvai Madame Nelville. À peine entrée, la mère d'Henriette vit l'expression de ma physionomie. Elle me questionna avec anxiété. Pour toute réponse, je la saisis par sa robe et je l'entraînai, renversant exprès un vase de fleurs pour jeter l'alarme. Il faisait grand soleil, n'importe. Je ne permis pas à la mère d'Henriette de prendre son chapeau. J'aboyais sans relâche, si bien que M. Nelville sortit de son cabinet pour savoir la cause de mon vacarme.
« Viens, viens, Léon, il est fou !»« Bien certainement, il arrivait quelque malheur, mais où est Henriette ?»
À ce nom d'Henriette, je poussais des cris horribles en me dirigeant vers l'étang. Le père et la mère couraient presque aussi vite que moi, et, dans un instant, nous fûmes rendus près de notre chère petite. Le pêcheur était venu jeter ses filets pendant mon absence. C'était un brave homme qui avait vu bien des malheurs sauver la vie à beaucoup de gens. Aussi, grâce à ses soins, Henriette commençait à reprendre connaissance. Je m'approchai d'elle, je léchai son petit menton et j'eus l'inexprimable bonheur de lui voir ouvrir les yeux. Madame Nelville, à genoux près d'Henriette, faisait pitié à voir. Son mari n'était guère plus fort. Je les regardais, allant de l'un à l'autre, agitant ma queue et en poussant des petits cris de joie. L'alarme avait été promptement donnée au château. La grand-mère arriva avec des flacons, tout ce qu'il faut en pareil cas. Et en moins de 20 minutes, M. Nelville rentrait en portant Henriette dans ses bras. Je le suivais en sautant et en jappant. « Oui, mon ami, mon brave chien, c'est à toi que nous devons la vie de notre enfant. » Pauvre bête, dans quel état tu es aussi, toi ? Pendant toutes les allées et venues qui eurent lieu au retour, je ne cessais pas de trotter partout. Et je ne fus vraiment tranquille qu'au moment où je vis Henriette dans son petit lit, ouvrant ses beaux yeux bleus et embrassant son père et sa mère, encore tout tremblant. Puis vint mon tour. On me permit de monter sur le lit. Henriette m'appela Toutou, me donna ses mains à lécher. Il s'endormit d'un paisible sommeil. Quelle journée ! Je pensais à Mouflard. J'aurais volontiers couru lui raconter mes exploits. Les siens me paraissaient bien peu de choses à côté des miens. Une brebis, un troupeau, 1000 troupeaux ne peuvent être comparés à l'objet du plus tendre amour, à ma petite Henriette. Je fus comblée de caresses. C'était à qui me parlerait, me féliciterait. Je montais sur l'un, sur l'autre, pour mieux entendre mes louanges. J'étais embrassée, tapotée. Ma langue était fatiguée de lécher. L'orgueil me monta à la tête. Je repassais toutes les circonstances de ma noble conduite. Je trouvais qu'on n'en disait pas assez. Pourtant, M. Nelville ne négligea rien pour ma gloire. Il eut soin d'envoyer au journal du département, qu'il le communiqua à d'autres, le procès-verbal de ma noble et touchante conduite, et j'eus la satisfaction, un beau matin, d'entendre lire mon histoire. Hélas, mon orgueil fut rabattu par un mot de Goton. À tous ceux qui lui vantaient ma conduite, la bonne fille répondait « C'est égal, ce qu'il y a de plus fort, c'est d'avoir refusé sa pâtée favorite aux queues d'asperges. » Le bateau fut brûlé, et j'en suis heureux de pouvoir dire que Paul et Louis en firent le sacrifice avec une touchante générosité.
je prie le lecteur de croire à la véracité de mon récit. Je ne suis point de ces hableurs de chiens comme il y en a dans le monde. Une petite fille ou un petit garçon, ne vous en déplaise, peut se noyer presque aussi facilement qu'une mouche. C'était la première désobéissance d'Henriette. Et si je n'avais pas été là, hélas, c'eût été la dernière. À cette pensée, mon poil se défrise.